13h30 sur France
Culture. Les pieds sur terre,
voilà.
Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
À un certain moment, le site Rue 89 publiait régulièrement des histoires relatées par des avocats, des souvenirs les plus marquants de leur carrière, une affaire qui les avait émus, bouleversés. Toujours instructive et surprenante, la rubrique s'appelait, et s'appelle toujours, puisqu'Internet ne meurt jamais, « Un avocat, un client ». On a pu y lire l'histoire de cet homme de loi qui reçoit en cadeau de son client un bijou issu d'un braquage. Des aveux qui produisent les larmes de toute la cour, clients, avocats, huissiers, juges et procureurs. Une affaire dans laquelle une photo de squelette est produite pendant l'audience devant les yeux des accusés. Un client qui se tranche la gorge, cette victime de viol qui appelle des années plus tard son enfant du prénom de son avocate. On se demande aussi si un client peut rémunérer son défenseur avec des pizzas. L'affaire existe bel et bien à Marseille, jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de ce pizzaïolo qui croyait le marché bien clair entre lui et l'homme de loi. À Nice, enfin, un avocat, appelé par son client au commissariat, y arrive aussi ivre que lui et finit dans la même cellule de dégrisement. Tout de suite dans les pieds sur terre, les cas d'avocats que nous racontons sont moins piquants et plus sérieux. Ce sont plutôt des cas d'espèce, des cas de conscience, des histoires dont nous pouvons chacun tirer un enseignement, une leçon ou une expérience, ou pas. Une émission signée Pauline Mocor à écouter en direct, en replay et en podcast, ou bien tous les trois.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ouais, c'est bon, on va s'en occuper. Ok, bon, il faut que j'y aille, je suis à la bourre, et puis je vous appelle. À tout à l'heure. Julia, tu peux noter le nom de garde à vue. Je suis pas à la bourre.
C'est votre premier café ?
Le sixième.
Vous avez commencé à quelle heure ce matin ?
J'ai amené mes enfants à l'école à 8h30. Donc 7h. Je savais pas encore à quelle heure était l'audition. Donc je suis passé ici, j'ai reçu l'appel du magistrat instructeur et maintenant je retourne à Bobigny. Et entre-temps, j'ai déposé les enfants. C'est le boulot d'un avocat père célibataire. La semaine a été compliquée. Tout le monde est un peu fatigué. Là, on va à Bobigny pour... Une audition, c'est ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution dans le cadre d'une mise en examen de deux personnes qui ont été donc interpellées pour des trafics de stupéfiants.
Alimi, avocat au barreau de Paris, j'ai 38 ans et je suis inscrit au barreau de Paris depuis décembre 2002. J'ai commencé à travailler à Sarcelles parce que j'y ai vécu. Je fais partie de la communauté juive de Sarcelles depuis toujours. J'ai été dans une école juive à Sarcelles, une grande partie de ma famille vit à Sarcelles encore.
Le premier dossier important que j'ai eu à Sarcelles, c'est le dossier de juillet 2014, juste après les émeutes à caractère antisémite, où j'ai défendu deux jeunes à qui l'on reprochait d'avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Ça a tourné à l'émeute. Il y a énormément de jeunes de Sarcelles ou d'ailleurs qui se sont dirigés vers des commerces tenus par des personnes de la communauté juive, et ils se sont aussi orientés vers la synagogue. Vous avez eu beaucoup de pillages, des magasins cassés, des vitres cassées, une pharmacie tenue par une dame juive, un café tenu par une personne qui était juive. Voilà ce qui s'est passé, et un ou deux jours après, deux jeunes ont sollicité mes services et m'ont demandé de les défendre devant le tribunal correctionnel de Pontoise. C'était deux jeunes qui appartenaient à la communauté turque,
et qui ont toujours prétendu qu'ils étaient descendus de chez eux pour acheter du pain afin de casser le ramadan à la demande de leur mère. Ils étaient vraiment heureux de ce que j'ai pu les défendre, alors que j'appartenais à la communauté juive et que j'aurais pu être moi-même une cible de certains actes qui avaient eu lieu pendant la manifestation. Et moi, j'ai vraiment cru en leur innocence, vraiment.
Parce que j'ai défendu des jeunes à qui on reprochait d'avoir participé à une manifestation antisémite, le cas de conscience il se posait, mais pas tant que ça pour moi, en tout cas en tant qu'avocat. En revanche, ma famille, mes amis, ceux qui vivaient à Sarcelles, se sont, pour le coup, posé beaucoup de questions. Ça a été extrêmement mal pris. Ma famille recevait de nombreux appels d'incompréhension, d'amis à eux, de représentants de la communauté. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça a été très violent. On me demandait de choisir finalement entre ma judéité et mon rôle d'avocat. Et j'ai eu des menaces de mort. Une dizaine de jours après le procès, j'ai cet appel téléphonique. Et je vois le nom de mes grands-parents qui apparaît sur mon téléphone portable. Donc je réponds benoîtement, je suis assez content de pouvoir parler à mes grands-parents, et j'entends « espèce de fils de pute ». C'est comme ça que la conversation a commencé. Et d'ailleurs, c'était pas vraiment une conversation, c'était une succession d'insultes, et j'entendais deux voix assez jeunes, d'hommes. Ils me reprochaient d'avoir trahi la communauté juive. Ils me disent qu'ils me connaissent, qu'ils ont mon numéro, qu'ils savent où je travaille, qu'ils savent absolument tout. Qui vont s'occuper de mes grands-parents, qui vont me trouver, qui vont me flinguer, ce genre de choses. Pendant à peu près une minute, j'ai eu un peu peur. Et puis au bout d'une minute, j'ai réfléchi et j'ai compris le stratagème. Donc j'ai écouté pour voir un petit peu jusqu'où pouvait aller la violence. Et puis au bout d'un moment, ils se sont essoufflés et puis ça, on a raccroché, quoi. Pour eux, ça allait de soi. Le fait que j'ai pu défendre deux personnes, les deux personnes que j'ai évoquées, impliquait que j'étais un faux juif qui avait la haine de moi et qui voulait m'attaquer finalement à mes origines et à mon identité. Pour eux, c'était une forme de trahison génétique, pratiquement. Sauf que je pense pas comme eux. Je pense que peut-être que par le dialogue, eh bien, on arrive à casser la glace, à casser les haines, parce qu'une personne qui est défendue par un juif, eh ben, il va se dire, finalement, le juif, il ne me veut pas vraiment du mal. S'il me défend, c'est que finalement, le juif n'est pas si mauvais que je pourrais le penser. Et c'est déjà, à mon petit niveau, une forme d'engagement et de combat contre l'antisémitisme.
Oui, je vous écoute. C'est ça dont j'ai besoin pour essayer d'obtenir une mise en liberté. Essayer d'obtenir le maximum de choses. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces éléments.
Après cette affaire, justement, il y a pas mal de gens qui se sont adressés à moi, finalement. De personnes à qui on reprochait d'avoir commis des actes antisémites ou d'avoir proféré des propos antisémites. Et il se trouve qu'il y a eu une enquête journalistique qui a été faite sur Sarcelles après ces émeutes, sur France 2. Et un jeune de Sarcelles a été interrogé à visage découvert. Et ce jeune a eu des propos extrêmement choquants et violents à l'égard de la communauté juive. Ce reportage, il a été diffusé le soir du Nouvel An juif à Rosh Hashanah. J'étais en famille à Sarcelles quand le reportage a été diffusé et ma famille regardait avec moi. Il y avait déjà eu ce qui s'était passé en juillet. Ils m'ont dit, tu vois, t'as contribué à ça, à la libération de la parole antisémite dans les banlieues. Je me suis un peu senti con, pour tout vous dire. Parce que là, effectivement, les propos qui avaient été proférés à la télé étaient d'une violence extrême. Et il se trouve que deux personnes que je connaissais à Sarcelles ont donné mes coordonnées à ce jeune qui a été poursuivi pour les propos qu'il avait proférés à la télé. Et ce jeune m'a contacté. La première chose que j'ai pensé, c'est que j'allais pas le rencontrer.
Je me suis senti blessé par ses propos, donc la question se pose de savoir si moi je peux défendre une personne qui m'a blessé. Donc j'ai réfléchi quand même. Et j'ai proposé de le rencontrer. Pas d'accepter son dossier, hein, mais de le rencontrer. Il est venu à mon cabinet et il s'est expliqué avec des propos qui n'étaient pas forcément très élaborés, un vocabulaire assez restreint. Mais il disait clairement « je suis pas antisémite ». Et ce qui ressortait de son discours, c'est qu'il s'est retrouvé devant des caméras, devant ses copains, qui eux avaient participé à la manifestation et qu'il avait voulu jouer le bonhomme. Il a fanfaronné, il a dit « je veux pas être flouté, je suis prêt à dire ça », et il a prononcé ce type de propos. Et j'ai considéré qu'il y avait eu un incident de parcours, dans des circonstances très particulières, et je me suis dit, maintenant que j'avais compris le cas particulier de ce jeune, je me suis dit que finalement, au point où j'en étais, autant aller de l'avant et continuer le dialogue dans le cadre d'une défense. Et donc d'instaurer une relation de confiance encore plus importante, puisque si j'acceptais de devenir son avocat, là, il pouvait se livrer pleinement. Et j'ai accepté de le défendre. On a même eu une émission avec lui. Et il a parlé à nouveau à visage découvert et il s'est excusé. Et il a fait des efforts de compréhension importants. Je pense que simplement d'avoir fait ça, j'ai fait mon boulot. Et d'avocat et de citoyen. J'ai beaucoup d'amis qui ont disparu de mon entourage à la suite de tout ça. J'avais une amie qui vivait à Tel Aviv et que je voyais fréquemment, avec qui on était assez proches. Et quand elle a appris tout ça, par l'intermédiaire d'autres personnes d'ailleurs, j'ai eu un mot du type « tu me dégoûtes ». Tu me dégoûtes. Et elle a disparu du paysage. Et il y a vraiment un tabou qui s'est instauré entre mes parents et moi. C'est un vrai tabou. Je fais mon boulot, je continue mes engagements et on n'est pas obligé d'en reparler. Mais j'ai eu beaucoup de conflits avec mon père. Il y a eu des longues périodes où je ne lui ai pas parlé. Ma mère aussi. Et il y a eu toute une partie de ma famille à qui je ne parle plus du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus extrêmement religieux, orthodoxes, et qu'ils ne comprenaient pas mon mode de vie à moi, à savoir un mode de vie beaucoup plus laïque. Ils ne pouvaient pas comprendre que je puisse prendre position pour les Arabes. Quand j'étais jeune avocat, ou même avant d'être jeune avocat, je disais que je voulais défendre les Palestiniens en Israël. Donc moi, tout de suite collé l'image de celui qui voulait défendre les ennemis d'Israël ou les ennemis de la communauté juive. Mais je pense que j'ai l'instinct que je dois faire ça. Et je le fais. Et après, je comprends pourquoi je le fais. Il y a un truc dans le judaïsme qui est extrêmement important. C'est un précepte en hébreu, c'est « naase venishma ». Tu fais, et puis après tu comprendras. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne dans ma vie. Je fais, puis après j'essaye de comprendre pourquoi j'ai fait. Alors, des fois je me trompe, des fois je fais n'importe quoi. Après j'essaye de comprendre pourquoi. Et 9 ans. Elles sont à l'école publique. Elles savent qu'elles sont juives. Et elles se posent déjà des questions, beaucoup de questions. Elles me disent souvent, elle est juive, ou elle n'est pas juive. Et ça prend une part extrêmement importante de leur interrogation et de leur discussion. Et je suis content de discuter avec elles. Et le fait que, parce qu'elles ont su ce que j'avais fait, elles ont essayé de comprendre en me posant des questions, pourquoi tu fais ça, papa ? Je leur ai répondu que j'essayais de dialoguer et que en défendant ces personnes, et ben peut-être que ces personnes allaient changer un petit peu d'avis. J'ai la plus grande qui me dit c'est n'importe quoi, papa, parce que peut-être qu'elle a entendu d'autres personnes dire que c'était n'importe quoi. Mais elles sont petites, elles vont grandir et j'espère qu'elles comprendront. Donc je sais que, comme pour mes parents, c'est trop tard, pour mes filles c'est le début. Donc j'espère que, en faisant ça, je transmettrai aussi l'envie du paradoxe, de la compréhension et de briser des tabous sociaux qui semblent inhérents à tout individu. J'espère que mes filles n'auront pas ces tabous et n'auront pas ces a priori.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai 31 ans, je fais du droit d'asile et en décembre, ça fera 4 ans que j'ai prêté serment. Donc 4 ans que je suis officiellement avocate. Alors des histoires choquantes, il y en a beaucoup en droit d'asile. Alors l'histoire choquante qui me reste en mémoire, c'était une dame congolaise qui était la maîtresse d'un opposant politique et qui avait subi vraiment énormément de persécutions et qui avait réussi à s'enfuir de son pays. Mais en trajet, je ne me rappelle plus avec exactitude le parcours du combattant qu'elle a mené, mais elle a été battue, laissée pour morte, vraiment dans le caniveau, etc., violée, enfin l'horreur. Elle a attrapé le sida à cause de ce viol-là. Et alors moi, j'étais épuisée, c'était mon 4e dossier de la journée, et cette dame-là m'avait touchée dès que je l'avais vue. Elle était très abrupte dans ce qu'elle racontait, mais ça sentait le vécu, et c'était le pire vécu du monde, quoi. C'est vraiment la pire histoire. Horrible. Et je tombe, pas de bol, devant une présidente qui... On a vu d'autres et est complètement blasée et pose deux questions. Et par contre, elle est très polie, mais on voit qu'elle s'en fout, quoi. Et alors moi, ça me désespère. Je me dis, mais c'est pas possible, il faut qu'elle comprenne toute la souffrance de cette personne. Et au moment de plaider, donc je suis absolument épuisée, j'arrive à plaider 2 minutes. Et là, je me dis, oh merde, je vais pleurer. Et ça m'est jamais arrivé. Donc je m'arrête, je respire un grand coup, et puis là je pense à tout un tas de trucs le plus neutre possible, j'essaie de faire la respiration abdominale, enfin toutes ces techniques qu'on apprend, et ça marche pas, je me dis merde, je vais vraiment pleurer quoi. Donc la présidente me dit, vous voulez aller prendre un verre d'eau? Et là ça m'énerve, je me dis putain ta gueule, non seulement elle s'en fout, mais en plus elle gère quoi, genre ça va l'avocate là, un peu perturbée, on va lui laisser le temps, puis on va finir cette mascarade. Et donc là, je pleure. Et j'arrive à finir de plaider quand même. Mais alors moi, je me sens pas bien. Enfin, c'est vraiment la honte. Et puis, le truc, c'est que quand je sors, donc j'ai m'isolé un petit peu dans les toilettes de la Cour nationale du droit d'asile pour pleurer tout à mon aise. Et puis, en attendant, ah oui, l'audience qui était juste après, qui était une affaire d'excision horrible. Donc je me dis, ben c'est l'horreur, je vais jamais y arriver. Donc je pleure un peu dans les toilettes. Et puis... Tout à coup, j'entends quelqu'un qui frappe énergiquement à ma porte et qui me fait « Maître, vous êtes là ?» Et c'est ma cliente, en fait. Et alors, je fais « Oui, madame, ça va très bien. Allez-y, j'arrive. » Ça me fait une petite douche froide. Je me dis « Bon, attends, c'est l'horreur. C'est elle qui est demandeur d'asile et qui va être rejetée, très probablement. En plus, elle a le sida. Enfin, c'est elle qui a à plaindre, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Donc, ça me cale un bon coup. Donc, je sors et elle me fait « Ça va ?» Et alors, elle me console, quoi. Elle reste avec moi, quoi. Elle m'accompagne dehors pour faire un petit tour. Enfin, je finis par lui dire merci, puis je lui dis, bon, bah, voilà, on aura la décision dans 3 semaines. Enfin, je sais pas quoi lui dire, j'ai plus aucune dignité à ce moment-là. Et puis, elle me dit, bon, j'espère que ça va aller, hein. Moi, je vais devoir partir. Je dis, oui, bien sûr. Donc, elle s'en va. Et voilà. Et elle a été rejetée. Elle appelle le statut. Je me rappelle d'un couple de yézides géorgiens. Donc les yézides, c'est une minorité en Géorgie qui est persécutée. Et ce couple avait un parcours très dur en Géorgie puisqu'ils avaient été la cible de la police. Et un élément qui était avéré, c'était qu'ils avaient eu des jumeaux, des bébés, et que la police qui les persécutait, un jour, en représailles, est venue chez eux, a passé le monsieur à tabac, a agressé sexuellement la dame et a également tué l'un des deux bébés jumeaux qui avait quelques mois, quoi. Sous leurs yeux, quoi. Vraiment le crime sadique. Alors, ce qui était très dur en plus dans leur dossier, c'est que l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés, disait que, en fait, cet enfant n'avait pas existé. Il l'avait inventé. Ils ont inventé l'histoire. Quoi. Et donc là, on va devant la Cour nationale du droit d'asile. On passe devant un président assez dur, qui n'est pas convaincu du tout par leur histoire. Pour lui, ça ne mérite pas la protection de la France, quoi. Il prend un peu l'affaire à la légère. Il pose des questions presque ironiques. Alors, les clients font ce qu'ils peuvent pour établir leur histoire, mais il faut savoir que la Géorgie est un pays sûr pour la France. Donc, il y a un a priori négatif sur les demandes d'asile des Géorgiens, pour beaucoup de présidents. Donc, l'audience se passe pas très bien, alors qu'il y a quand même des faits établis, hein, à ce stade, extrêmement lourds. Et donc, au moment de plaider, je mets le paquet sur leur souffrance, quoi. J'y vais à fond, ouais, sur la culpabilité du mari, parce que c'est lui qui s'était opposé à la police, en fait, c'est pour ça qu'il y avait eu des problèmes avec la police, donc la culpabilité qu'il doit porter au quotidien. Et puis, j'insiste sur le côté tragique de l'histoire et sur les traitements inhumains et dégradants qu'ils ont subis et qu'ils peuvent subir encore s'ils retournent dans leur pays d'origine. Donc je les prenais à partie, je les montrais du doigt, etc. J'avais moi-même un peu la gorge nouée. Et à la fin, le président demande à la dame si elle veut pas rajouter quelque chose. Et alors là, elle craque, en fait, elle sort la photo de son enfant qui est décédé, et puis elle se met à parler en géorgien très fort, puis elle se met à pleurer, elle martèle la table du poing et tout ça. En fait, elle craque complètement. Je voyais déjà pendant ma plaidoirie que la dame avait des difficultés à respirer et tout ça. Ça crée une tension, et puis elle a craqué, et puis le président, qui n'avait pas l'air très ému, lui demande de partir. Et puis là, elle fait un pas, deux pas, et puis elle me tombe dessus, et puis elle s'étale par terre, quoi. Elle perd connaissance. Donc la sécurité arrive, on appelle le SAMU et tout ça. Il y a quelqu'un qui était dans le public, qui se précipite, qui sort sa bouteille d'eau, qui lui jette au visage. Enfin, bon. Son mari pousse tout le monde, se met à califourchon sur elle et commence à lui mettre des grosses baffes. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Le président, par contre, a l'air assez serein. Ceci dit, il voit des choses atroces. Hein. Il y a eu encore une immolation il y a une semaine dans la Cour nationale du droit d'asile. Donc, ça lui fait ni chaud ni froid. Il a les mains dans les poches et tout ça. Moi, je suis pas très bien, franchement, là, à ce moment-là. Et donc, on s'en va, on sort de la salle. Et le truc affreux, en rétrospective, c'est que, bon, une fois qu'elle allait mieux et tout ça, elle vient me voir et puis elle me dit « Vous pensez que ça a marché? Vous pensez qu'on va la voir? Vous pensez que c'est bon ?» Alors moi, je sais pas quoi lui dire, quoi. J'ai envie de lui dire « Bah oui, c'est bon, t'inquiète pas. » Mais non, je crois pas que ça va se passer comme ça. Donc je lui dis « Mais j'en sais rien. Écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous n'avez rien à vous reprocher. » Elle me dit « Mais ça, je m'en fous. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une protection et tout ?» Je lui dis « Écoutez, madame, je sais pas. J'espère vraiment. Mais donnez-moi un pourcentage. » Je dis « Je sais pas. Je ne sais pas. » Et donc, ils rentrent chez eux. Ils reprennent le train. Ils s'éloignent, quoi. Et j'ai appris hier qu'ils avaient été rejetés. Donc, ils n'ont pas eu le statut de réfugiés. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. C'était Cas d'avocat, un reportage de Pauline Mocor réalisé par Delphine Lemaire et diffusé pour la première fois le 27 avril 2015. Merci à Delphine, Dalivi Kelly, à Lucille Abassad et à Arié Alimi. C'est François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire. And now you see the light. Stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up.
Schism, game, die, and go to heaven in Jesus' name. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. Stand up for your rights. Yes, get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Oh, no, no. Get up, stand up. Stand up for your rights. Stand up for your rights.
Don't let them push you around.
Get up, stand up. Don't give up the fight. Thank you very much.